Culture sans frontières.
Le 20 août dernier est sorti le film Charlatan de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland. Ce film s'inspire de la vie de Jan Mikolaszek, incarné à l'écran par Ivan Trojan, un guérisseur qui aurait soigné des milliers de personnes en Tchécoslovaquie au cours de la première moitié du XXe siècle. Radio Prague International a rencontré la réalisatrice avant la sortie du film, l'occasion d'évoquer avec elle le destin de cet homme secret et ambivalent dont l'histoire était tombée dans l'oubli, mais aussi le lien fort avec la Tchéquie où elle y a fait ses études dans les années 60, ou encore le traitement de la période communiste sur le grand écran. Mais avant cela, Anna Kubiszta lui a demandé comment elle avait vécu la période de la crise sanitaire qui a stoppé net au printemps la promotion de son film qui venait tout juste d'avoir sa première mondiale à la Berlinale.
Bah écoutez, je l'ai vécu comme tout le monde, ça veut dire c'était la rupture brutale de notre vie pour beaucoup de gens, pour moi aussi. Mais je pensais surtout sur la production et la distribution tchèque. Parce qu'ils ont mis tellement d'efforts, ça durait tellement des années jusqu'à quand le film était réalisé. Après, on avait cette première à Berlin qui s'est très, très bien passée. On a compris que le film a peut-être les ailes et peut voler. Et on l'a vendu, heureusement, tout de suite sur plusieurs territoires. Et comme ça, on a pensé que, bien sûr, on ne sait jamais si le public vient, si le film aura le prix, etc. Mais on savait qu'il bien existe. Et là, Covid nous a... C'est un coup. Hein. Mm. Et on ne sait pas si ça va, comment ça va maintenant vivre. Mais je pense que le film est assez solide, assez costaud et assez original pour survivre les périodes incertaines qu'il a devant soi une vie.
C'est votre deuxième collaboration avec deux scénaristes tchèques, hein, si je ne me trompe pas. Il y avait déjà évidemment Roji Tikesh, donc en français Buisson Ardent, je crois, sur Jan Palach, hein, la série.
Maintenant, en français, ça s'appelait Sacrifice.
Sacrifice, oui, c'est ça. Oui, ouais. Donc maintenant, Charlatan, hein, ou Le Charlatan. Vous avez aussi fait une coproduction, évidemment, plusieurs coproductions avec la Tchéquie par le passé. Je pense à Janoschik, d'ailleurs, on s'était rencontrés à l'époque aussi. Donc je suis ravie de vous revoir. En dehors du fait qu'en effet, vous avez ce lien avec les pays tchèques, vous avez fait vos études à la FAMU, c'est connu. Vous continuez vraiment à entretenir ce lien avec la Tchéquie et avec son histoire. C'est quoi cette affinité particulière, finalement?
Mais je pense que c'est le fait que j'ai passé ici à une partie peut-être la plus importante d'un point de vue formatif de ma jeunesse, et que beaucoup des expériences vitales pour moi on commençait ici. Je pense que ça fait cette infinité avec la culture et le destin, le peuple tchèque spécial. Et je me sens ici vraiment chez moi, dans la façon même plus luxueuse que quand je suis chez moi en Pologne. Et c'est beaucoup moins conflictueux, c'est beaucoup moins respectueux. Et en même temps, j'aime beaucoup la façon comment les équipes travaillent ici. Cette espèce de partenariat, de la camaraderie, certains rapports très démocratiques au sein de l'équipe. Ça fait que qu'on travaille ici avec certain calme et confiance. Et j'aime beaucoup cette atmosphère. Pour moi, c'est très créatif parce que je n'entre pas dans les jeux de pouvoir, dans les conflits nécessaires. On peut se concentrer sur le travail. Et je sais que les gens qui m'entourent sont ici aussi pour qu'on fasse le meilleur produit possible et pas pour prouver qu'ils ont raison ou qu'ils sont meilleurs. Il y a quelque chose de vraiment très exceptionnel. À chaque fois, quand je travaillais ici, Martin Sterba, le chef opérateur, a travaillé avec moi et on a collaboré avec le caméraman avec qui je travaille autant que je peux, qui dirige caméra, qui est polonais et qui est très sensible à mon façon de raconter par caméra l'histoire. Et lui aussi, il vient toujours ici quand quelqu'un le demande, parce qu'il se sent ici beaucoup mieux que dans les équipes polonais ou français ou anglais où il a travaillé aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'exceptionnel.
Alors revenons au personnage de Yann Mikolajczyk, alors que pour le coup, si on a nos auditeurs francophones ne connaîtront que très peu, à moins qu'ils découvrent après le film quand il sortira en France. Donc c'était un guérisseur, un connaisseur des plantes, pour un petit peu expliquer, qui a exercé grosso modo donc dans l'entre-deux-guerres, qui aurait guéri par son talent très particulier des milliers de personnes en Tchécoslovaquie, dont des personnalités éminentes comme un président tchécoslovaque communiste, Zapotocki, mais aussi des hauts dignitaires nazis. Bon, on ne va pas dévoiler évidemment toute l'histoire. Qu'est-ce qui vous a, vous, attiré dans cette histoire quand même très particulière et finalement pas très connue en fait?
Oui, le fait que c'est connu ou pas connu, ce n'était pas essentiel pour moi. Je ne suis pas spécialement attachée au fait qu'il faut faire les personnages vrais. Et quand j'ai lu le scénario de Marek Epstein, j'étais fascinée par ça, comme si je lirais un roman. Je pense que le désavantage des films biopiques est que c'est presque toujours assez systématique, descriptif, éducatif, et ça devient agiographique. Mais pourtant, je fais plusieurs films sur les personnages vrais, mais à chaque Bien fois, sûr. Le talent de scénariste était tel qu'il a traduit cette vraie vie dans une espèce d'œuvre d'imagination. Et c'était aussi le cas de Mikolajczyk. Mais il y avait plusieurs motifs qui étaient présents dans mes films précédents. Le guérisseur, j'ai fait un film sur un guérisseur. Et la notion de mystère, de foi et de méthodes qui ne sont pas scientifiques dans les rapports, l'apport avec le corps humain et avec la nature. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Un don spécial, un talent spécial, et le prix qu'on paye pour ce talent. La question si on a le droit d'être immoral juste à cause de ça qu'on a ce talent-là. Quelle est la frontière avec l'officiel caché? Aussi le destin d'un habitant d'Europe de l'Est dans le XXe siècle et le fait qu'il n'est pas dépendant de son destin, ça veut dire qu'il n'est pas le maître de son destin, mais il dépend des jeux de pouvoir et des régimes et qu'il les traite comme une espèce d'objet ou un jouet dans la main de l'histoire. Tout ça, tous ces thèmes-là sont présents dans Charlatan. Ça veut dire que c'est un film épique qui est raconté d'une façon très intimiste. C'est ça que je pense fait l'originalité de ça. Et à la fin, c'est l'histoire d'amour qui est très peu traditionnelle et très, très douloureuse.
Oui, qui est très douloureuse, alors qui est très belle aussi, puisqu'en effet, c'est une histoire d'amour homosexuel avec son assistance. Et aussi, finalement, j'ai envie de dire quelque chose à la fois pour l'époque, peut-être pour le cinéma tchèque, pour le coup aussi, qui est peut-être moins présent. Et puis finalement, mine de rien, quand on cherche un peu sur la vie de Yann Mikolajczyk, à part finalement votre film et quelques choses qu'on peut chercher, c'est quand même quelqu'un, on le voit ailleurs, en tout cas, c'est comme ça que vous le transcrivez aussi, qui est quelqu'un de très secret. J'imagine qu'à part peut-être... alors je ne sais pas exactement comment a travaillé pour le coup le scénariste Marek Epstein, mais j'imagine qu'à part les archives, peut-être des procès, etc., il y a peut-être peu de documentation. Est-ce qu'il y a des témoins de l'époque? C'est aussi... comment est-ce qu'on travaille quand c'est un personnage quand même très... très ambivalent en plus comme celui-ci?
Oui, c'est ça. Il était très populaire à l'époque, surtout entre les guerres, mais aussi pendant la guerre et après la guerre. Il a exécuté son don jusqu'au 58, quand il était après la mort de président Zapotocki qui lui a fait la parapluie. Et il était arrêté. Il avait un procès qui a fini sa carrière. Mais c'est vrai que les millions de gens ont été guéris par lui, ou pas guéris, en tout cas ont passé par son cabinet. Et comme ça, beaucoup de gens étaient au courant de son activité. Mais après, bon, il était oublié, comme beaucoup, beaucoup des autres. Mais quand on a commencé de faire les films, les gens dans notre équipe ou les extras se sont souvenus d'un coup que, ah oui, ma grand-tête, ma grand-tante ou ma grand-mère ont dit qu'ils étaient guéris par certains Mikolajczyk. On a compris qu'il existe d'une certaine façon caché dans le subconscient national. J'ai retrouvé, il y avait une vieille dame qui m'a retrouvé, qui a son portrait. Elle m'a envoyé son portrait, très, très joli d'ailleurs. Il y a quand même un peu de témoignages, il y a un peu des articles dans la presse, on a des documents de son procès. et les autres documents qui étaient dans les archives de Secret Service. Mais il y a aussi son autobiographie officielle, où il est, bon, qui est très positive. Et son grand-grand-neveu, qui a amené ce sujet à la télévision tchèque, où après Marek l'a trouvé, il a fait certaines documentations, il a voulu faire documentaire sur lui, et il a encore réussi de parler avec les gens de Yechin, alentour, où il a exécuté la majorité de son activité, qui avait des souvenirs, hein, comment il était, qui était son assistant et tout ça. On ne savait pas grand-chose, ce qui est peut-être mieux, parce que si on ne sait pas trop, ça ouvre les voies à l'imagination.
L'acteur qui incarne donc Jan Mikolášek, Ivan Trojan, il dit de son rôle que c'est le film le plus compliqué qu'il ait tourné. Comment est-ce que vous le comprenez et comment est-ce que vous avez travaillé avec lui ?
En confiance. J'aime beaucoup Ivan. On a travaillé ensemble sur Sacrifice. Je savais qu'il a tendance de faire ce personnage noble et courageux, qu'il aime ça parce que je pense qu'il est comme ça. Mais en même temps, l'instinct d'acteur aussi l'a poussé d'essayer les choses qu'il n'a pas fait avant, d'essayer aussi de trouver, de chercher la côté sombre de ce personnage. Dans certains moments, on s'est un tout petit peu tiré. Moi, je tirais vers le côté sombre. Ivan a tiré le personnage vers le côté lumineux. Et je pense qu'on a trouvé, l'équilibre. C'était aussi pour la première fois dans sa vie qu'Ivan a joué l'amour homosexuel. Et il était très angoissé par ça parce qu'il ne savait pas comment il peut retrouver, lui, un homme hétérosexuel et le père de quatre garçons, peut retrouver cette côté-là, cette sensibilité-là, ces émotions-là. Mais finalement, quand on a tourné, il a compris que c'est la même chose, plus ou moins. C'était aussi très bien que Juraj Loj, qui joue l'assistant, et qui est un jeune acteur slovaque, très, très beau, et très, je pense, très doux et très juste. Pourtant qu'il est père de trois enfants, il n'avait pas ce problème-là. C'est aussi la question de la génération, je pense. Mais en tout cas, ils ont sympathisé tout de suite. Ils avaient beaucoup de confiance et de camaraderie entre eux. Et ça fait cette histoire d'amour. Ça s'est devenu très naturel dans certains sens. Moi, j'étais très contente et très fière qu'on a réussi de le faire dans une façon si subtile et en même temps sans cacher des choses qu'il faut montrer quand il veut montrer une passion.
Pourquoi le choix de ce titre, Charlatan? Parce que c'est à double sens quand même. Enfin, je veux dire, c'est les autres qui disent que c'est un charlatan. Par exemple, ceux qui lui font un procès, mais les gens qui se font soigner ne le considèrent pas comme un charlatan.
Oui, c'était le titre qui le film avait, le scénario avait de début. Moi, je trouvais cette ambiguïté intéressante. Mais après, dans certains moments, il y avait, je pense que c'était la note de vendeur à étranger qui a dit, mais peut-être ça peut être un titre qui va mener vers la direction qu'on ne veut pas suggérer. Et on a commencé à réfléchir à comment changer le titre et ça, on n'arrivait pas. On n'a pas arrivé, c'était gloué à cette histoire. Et on a décidé qu'on ne bouge pas avec le titre. Et surtout que c'est un titre qui résonne bien. Ça veut dire qu'il résonne, il reste dans vos oreilles. Et il est le même dans plusieurs langues aussi, ce qui est avantageux.
Alors, Sacrifice, Charlatan. Je pensais aussi donc à Mr. Jones, qui a été traduit par L'ombre de Staline en français. C'est tous des films, pour le coup... Alors, historique, ce n'est pas les premiers, évidemment, puisque vous avez aussi traité de l'Holocauste dans différents films. Mais c'est des films qui laissent percevoir, pour le coup, la violence du régime communiste sous différentes formes et à différentes périodes. C'est quelque chose que vous avez connu, vous aussi, puisque, vous êtes polonaise. Deux, vous avez été ici au moment du printemps de Prague en 1968. Vous avez même été emprisonnée à cette époque-là. C'est pour ça que ça revient comme ça, que vous avez besoin de traiter ces périodes-là.
Oui, je pense que c'est mon expérience personnelle. Ça veut dire ma vie était modélée par cette expérience-là de régime communiste et de souvenirs aussi de pierres crèmes communistes. Mais j'ai commencé d'en parler à certains moments parce que j'ai réalisé que cette partie d'histoire qui est mon histoire, qui est ma biographie, qu'elle était oubliée et aussi pardonnée, que ce crime était oublié et pardonné par l'opinion publique générale, et qu'au contraire de ça qui s'est passé avec l'expérience de l'Holocauste, qui a entré quand même cette conscience globale, le crime de Staline, le crime de ses héritiers, qu'exactement on l'a oublié. Pour moi, c'était un choc. Quand je lis les recherches faites en Russie, ou à la question qui était l'homme politique le plus grand de l'histoire de Russie, Joseph Staline a eu la première place. Je me suis dit, si c'est possible que la même recherche en Allemagne donnera Adolf Hitler comme le gagnant. Et je me suis dit qu'on paye le prix maintenant, je pense, dans la situation mondiale, des faits qu'on n'a jamais analysé et approprié ces expériences-là. Et quand moi, d'une certaine façon, je suis quelqu'un qui est lié par l'expérience, par la biographie, par le destin de mes grands-parents et parents avec l'Holocauste, je suis aussi lié de la même façon avec l'expérience de crimes et de dérives communistes. Et comme ça, quand je fais une trilogie sur l'Holocauste, maintenant, sans vraiment penser dans cette façon, mais ça s'est produit. Hein. Je fais maintenant une trilogie qui touche cette période-là et cette expérience-là.
Là, vous parliez justement du fait qu'en effet, en Russie, on considérait que Joseph Staline encore comme le plus grand des Russes. J'avais envie de dire, finalement, c'est aussi peut-être en dehors du fait de reparler de cette histoire pour les publics d'Europe centrale. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire aussi œuvre de transmission pour les pays de l'Occident, où souvent, finalement, par exemple, on sait qu'en France, en Italie, le Parti communiste était très, très important, très puissant, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, pour le coup, mais qu'il y a toujours une tendance, finalement, peut-être à minorer ou à ne pas vouloir voir cet aspect-là. Comment est-ce que, justement, vos films sur ces sujets-là sont accueillis? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de compréhension ou de réception en Occident pour ces thèmes-là?
Je pense que le temps change et que les gens deviennent de nouveau respectifs, et surtout si on réussi de montrer les révélances de certaines traits autoritaires ou totalitaires de ce régime-là et à quel point c'est lié avec la faiblesse de l'Occident et à quel point c'est fait aussi avec l'efficacité des propagandas. Mr. Jones, par exemple, qui a dû sortir en France en mi-mars, le 18 mars, et je fais la promotion et à ma surprise, la promotion était très très bien préparée par le distributeur, mais aussi la réponse du public, parce qu'on a fait plusieurs avant-premières, j'ai parlé avec pas mal de journalistes, était formidable, beaucoup meilleure que pendant des mois précédents quand j'ai montré ce film sur plusieurs territoires. Et on était très malheureux que le cinéma était fermé juste 3 jours avant que le film a dû apparaître. Les affiches ont resté à Paris pendant tout le confinement. Et les distributeurs ont décidé de sortir le film juste à l'ouverture des cinémas de nouveau. Et à ma surprise, de nouveau, il avait vraiment un grand succès, un numéro un parmi les nouveaux films. Et il a fait un très, très joli score, même avec toutes les restrictions de pandémique qui étaient installées. Et aussi, les médias ont réagi dans les façons pas seulement positives, mais aussi très approfondies, avec beaucoup d'analyses intéressantes. La même chose s'est passée aux États-Unis. Il y avait beaucoup des articles vraiment très approfondis sur le sujet, sur l'actualité de ce sujet, sur la presse, sur la corruption des médias, sur la fake news, sur la lâcheté des politiciens, l'indifférence des sociétés, sur les faits terribles qui se produisent juste à côté. Et comme ça, je pense que ce film, bien sûr, c'était pas c'était pas des millions de spectateurs, mais c'était quand même un événement. Et je suis très contente parce que je pense que quelque chose a passé, que dans ce moment-là, le public français qui est très capricieux en ce qui concerne la réception de communisme, parce qu'il y avait quand même la période, je ne sais pas, quand Costa Gavras a fait l'aveu, il y avait la période quand les révélations de Solzhenitsyn étaient accueillies avec beaucoup d'intérêt. Et après, il y avait de nouveau, je me souviens quand le livre noir des communistes qui est apparu, la réaction était très
grande.
C'est un scandale. Ouais. Ça veut dire, je me souviens quand je comparais dans le film Europa, Staline et Hitler, c'était aussi un autre âge. Mais en ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des populations, ça veut dire en tout cas des gens intéressés par le sujet en France, qui sont capables de s'ouvrir à la réalité que les conséquences des communistes, d'idéologie communiste étaient comme ils étaient. Et c'est important parce qu'on se retrouve dans le moment où il n'y a pas de nouvelles idées, mais on recycle les idées précédentes. On a un néofasciste qui est les formes différentes de fascisme et d'autoritarisme qui se produit, qu'on appelle maintenant populisme souvent. Et on a aussi la gauche qui veut oublier le passé et qui résonne aussi avec une partie de la population. Et je pense que si on oublie les conséquences de cette première idéologie avant le recyclage, on risque de répéter exactement la même faute qu'on a fait déjà dans le passé.
Merci beaucoup.
Merci.